Voilà Michel, donc l'exaltation, on peut dire avec cette chanson, elle a la force
Ah oui.
et à la hauteur de la personnalité d'Édith Piaf.
Absolument. Alors là, c'est un modèle, effectivement, de l'attitude exaltée. Hein. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai peindre en blonde si tu me le demandais, etc. Effectivement, à écouter cette chanson, on voudrait imiter justement cette attitude. Et finalement, il n'y a aucune distance humoristique, pas du tout. Hein. C'est une, comment dire, un hymne, ou une hymne, comme on dit, s'agissant des textes religieux, liturgiques. Eh bien, finalement, on ne peut qu'être fasciné. Mais, je le répète, la vie n'est pas comme ça. Hein. Il y a tel moment, bon, on est dans l'exaltation, par exemple, on a un rendez-vous d'amour, hein, bon, on est content d'y aller, mais puis ce jour-là, on aura un bouton sur le bout du nez, vous voyez, Redouane. Et donc, ça tombe mal. Hein. Ou bien on s'avance vers l'autre, tout énamouré, comme on dit, j'aime bien ce mot énamouré, mais on est rouge, on transpire, on a les mains moites, etc. Vous voyez, c'est ça. On voudrait être, comment dire, toujours comme au cinéma, vous voyez. Hein. Au cinéma, on voit les amants qui se rapprochent, le baiser de cinéma, etc. Mais dans la vie, on n'y est pas. Je pense au film de Woody Allen, La Rose pourpre du Caire, hein, où l'héroïne, encore une nouvelle Madame Bovary, va rêver devant des beaux films sentimentaux, hein. Mais après, bon, le problème, c'est que dans sa vie, elle va être extrêmement déçue. Alors, à un moment, je crois que l'acteur descend de l'écran. Vous l'avez vu, Redouane, hein, l'acteur descend de l'écran pour nouer une relation avec cette héroïne. Mais alors, aussi sur le point de s'embrasser, alors après, il dit « Où est mon fondu ?» Mon fondu, le fondu au noir, vous voyez, de la caméra. C'est-à-dire, dans la vie, il n'y a pas de fondu. Hein. Bon, normalement, l'art nous fait miroiter un monde où finalement tout est en ordre, où il y a des ellipses, hein, c'est-à-dire les deux amants s'embrassent dans les anciens films, hein, et ensuite vous avez un gros plan sur le feu de la cheminée. Bon, c'est une magnifique ellipse pour montrer l'intensité de la passion. Je sais bien que maintenant il n'existe plus ça. Maintenant on les voit s'étreindre dans le plus simple appareil sur l'écran, si vous voulez. Mais autrefois c'était ça. Il y avait le baiser et puis après le fondu et voilà. Or dans la vie ce n'est pas comme ça. Bon, dans la vie, je vous dis, on transpire, on est moite, bon, puis il faut se déshabiller, on se déshabille pas bien, etc. Vous voyez, donc, la vie est sordide, triviale, vous voyez. Hein, le problème de l'exaltation, c'est qu'il faudrait la voir comme quelque chose qui nous fait beaucoup de bien, mais qui peut aussi nous faire du mal quand nous y croyons trop. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'humour, vous voyez, Redouane. L'humour, ça permet de relativiser ce qui n'est pas important. Alors, ça ne supprime pas le sordide de l'humour, ça ne supprime pas du tout le trivial, mais ça permet d'avancer. Tenez, l'humour, je dirais que c'est comme les essuie-glaces. Hein. Il n'empêche pas la pluie de tomber, mais il permet d'avancer, d'y voir plus clair, si vous voulez. Voilà le rôle de l'humour. C'est ce qui manque à l'exalter. Alors, parlons maintenant du banalisé. Hein. Alors, le banalisé, c'est le deuxième pôle de ma réflexion, c'est l'excès symétrique. Hein. Il réduit Eros, le désir, au simple plaisir charnel, à la pulsion sexuelle élémentaire qui est totalement désublimée, pour reprendre, je le répète, le terme de Marcuse dans L'homme unidimensionnel, c'est-à-dire une passion qui n'implique pas le rêve, qui n'implique pas la rhétorique pour l'enrichir au moyen de ses différents filtres et écrans. Hein. Alors, vous voyez, par exemple, la drague sur Internet ou ailleurs, hein, il n'y a pas de rhétorique. Hein. Bon, la rhétorique, c'était bon pour l'ancien monde. Hein, quand Balzac écrit « Seul avec, elle avait cette tendresse qui ne fleurit que dans l'infini », par exemple, hein, je crois que c'est dans « Splendeur et misère » des courtisanes, il parle d'Esther. Bon, aujourd'hui, sur Internet, vous draguez, vous n'avez pas ça. Hein, vous n'avez pas « Je cherche la tendresse qui ne fleurit que dans l'infini ». Vous êtes sur Internet, vous avez « Je cherche un plan », voilà, hein, voilà, le plan d'une nuit, voilà. Hein. Donc, alors, voilà, c'est le monde de la banalisation. Il n'y a pas d'exaltation, c'est la banalisation totale. Hein. Donc on cherche des aventures qui ne durent pas, qu'en un jour, en un lieu, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. C'est ainsi que Boileau définit les règles de la tragédie classique. Eh bien, actuellement, les gens souvent cherchent des rencontres sans lendemain, vous voyez. Hein, en un jour, c'est les trois unités de la tragédie classique, vous voyez. Et donc, c'est sûrement dommage. Hein, c'est sûrement dommage parce que la rhétorique avait quand même par les filtres qu'elle met, les écrans, hein, je répète l'expression, qu'elle mettait entre les choses et nous, hein, elle nous les faisait désirer davantage, si vous voulez. Et c'est bon qu'il y ait ces filtres. Le véritable amoureux d'érotisme, par exemple, il a horreur du nudisme, parce que le nudisme est un le désir, vous voyez. Non, ce qui compte, c'est ce que l'on devine, vous voyez. Hein, donc, le vêtement qui bâille est beaucoup plus attisant pour le désir, hein, que la nudité, que le spectacle de la nudité, vous voyez. Hein, la rhétorique, c'était ça, j'appellerais ça une jupe fendue, en quelque sorte, qui nous permet de deviner. Hein, maintenant, quand tout nous est donné, eh bien, c'est la voie de la banalisation. Hein. Alors, le sort qui guette le banalisé va être la dispersion, l'écartèlement, la fragmentation constante de son être. Alors, comme pour l'exalté, j'avais pris l'exemple d'Icare, hein, ou de Phaéton, hein, l'approche du soleil et la chute, pour le cas de la banalisation, je vais prendre le cas de Dionysos. Dionysos, c'est le dieu de la toute-puissance de l'instinct. Eh bien, quel a été son sort? Il est mort déchiré par les ménades. Il a été dépecé, c'est un dépècement, en grec sparagmos. Et ce dépècement signifie l'impossibilité de se fixer un but et de s'y tenir, l'impossibilité d'aller en ligne droite. Ainsi, l'homme est comme un arbuste sans tuteur agité par le vent, hein, et pour l'être qui sacrifie au seul plaisir sensuel, hein, eh bien, il va au gré de ça, de là, au gré de ses envies du moment. Songez, par exemple, voyez, Redouane, à la dégradation du personnage de Don Juan. Don Juan avait à l'origine une certaine grandeur dans la pièce de Molière, et c'est autre chose qu'un obsédé sexuel, puisqu'il va même jusqu'à défier Dieu. Hein, c'est un athée, hein, bon, un libertin au sens classique du terme. Bon, mais aujourd'hui, le Don Juan, c'est l'homme à bonne fortune, hein, et ainsi au défi porté à Dieu et aux hommes, à la société et à ses valeurs, visible, je le répète, dans la pièce de Molière et dans l'opéra de Mozart, a succédé le conformisme le plus inoffensif, et le seul souci de satisfaire ce que Freud appelait le « ça », c'est-à-dire la zone instinctuelle, ses instincts. C'est le dragueur, l'homme de plaisir, pour reprendre le titre d'un roman de Villalonga, hein, de José Luis de Villalonga, ou bien le gigolo, on appelait naguère le gigolo, aujourd'hui le playboy international. Hein. Donc, Don Juan n'a plus de grandeur, en se modernisant, il s'est rapetissé considérablement. Alors, le début de cela se trouve dans « Bel ami » de Maupassant, hein, le prolongement dans « Chérie » de Colette, etc. Et dans « L'homme de plaisir », je répète, de José Luis de Villalonga. Donc, là aussi, l'enjeu est celui-ci. Cela veut dire que quand on ne fait que suivre les injonctions de l'instinct, du « ça », hein, eh bien, on est finalement réduit au stade animal. Et on est ramené à la pulsion. Et alors, si on ramène Eros, je rappelle que le sous-titre de mon livre, c'est « Eros et Agapé », « Méandre de l'amour » et « Eros et Agapé ». Nous ne parlons pas d'Agapé, bien sûr, ici. Nous parlons d'Eros. Si on ramène le désir, qui traditionnellement implique quand même l'imaginaire, si on le ramène à la pulsion, alors la vie devient une espèce d'hérétisme constant. Alors c'est un mot un peu rare, c'est savant, hérétisme, c'est un mot qu'il faudrait proposer au jeu des 1 000 euros par exemple, vous voyez, qu'est-ce que c'est que l'hérétisme, hein? Tout simplement c'est une démangeaison, voilà, quelque chose nous démange, hein? Et ça, c'est le sens de la tunique qu'avait donné le centaure Nessus à Déjanire, femme d'Héraclès, de façon à ce qu'elle puisse garder son mari. Hein. Et alors, quand Héraclès revêtu cette tunique, eh bien, il fut consumé, ça l'a brûlé, il a été entièrement brûlé. Et ainsi, la banalisation nous fait revêtir un costume qui nous brûle, hein. Et alors, il faut remarquer que cette tunique, hein, est le don d'un être qui n'est pas totalement et pleinement humain, un centaure, à une femme qui pense pouvoir retenir un homme par les liens de l'amour charnel, c'est-à-dire d'un amour non sublimé. Je rappelle que je prends le mot sublimation au sens freudien, au sens psychanalytique, c'est-à-dire intégrant, idéal, rêve, imaginaire, etc. Hein. Ainsi, comme l'histoire d'Icare figurait la nécessité de combattre l'exaltation, l'histoire d'Héraclès figure la nécessité de combattre la banalisation. C'est ainsi que Paul Diehl, dans le livre, je répète son titre, Le symbolisme dans la mythologie grecque, livre essentiel, c'est ainsi que Paul Diehl modélise ces deux excès, ces deux excès symétriques. Hein. Donc l'histoire de la tunique de Nessus nous dit qu'il y a un incendie des sens, quand on les prend tout seul, hein, cet incendie des sens va tuer l'âme. Et Baudelaire écrit, par exemple, dans « Femme damnée », la strophe suivante, elle est très belle, hein, « L'âpre stérilité de votre jouissance altère votre soif et roidit votre peau, et le vent furibond de la concupiscence fait claquer votre chair ainsi qu'un vieux drapeau ». Vous voyez, donc ça, c'est véritablement la tunique de Nessus. Nous sommes brûlés par notre désir, hein. Et notre société propose comme modèle le plaisir des sens. Quotidiennement, elle pratique un teasing là-dessus. Alors, teasing, c'est un mot anglais qui veut dire aguichage. Hein. On nous dit, la publicité nous le dit, see, sex and sun, c'est-à-dire la mer, le sexe et le soleil. Hein. Donc, c'est ce que l'on propose aux jeunes. Je suis effrayé, Redouane, aujourd'hui. Je vois que les jeunes, très tôt, ont des tablettes, hein, à partir de 8-10 ans. Hein. Bon, ils ont donc accès à Internet. Et si les parents ne contrôlent pas, à ce moment-là, ils vont voir ce qui est proposé. Hein. Le corps, voilà, hein, le corps. Le corps, vous voyez ce que dit Armande dans Les Femmes Savantes, dont nous avons parlé dans l'émission de la semaine dernière. Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix à mériter seulement qu'on y pense, et ne devons-nous pas laisser cela bien loin? Et alors, Chrysal, à côté, répond à Armande. Chrysal, c'est le bon bourgeois banalisé. Il dit, oui, mon corps est moi-même et j'en veux prendre soin. Guenille, si l'on veut, ma guenille, mes chairs. Vous voyez, ça, c'est le banalisé. Donc, le corps était une guenille depuis Platon. Hein. Soma, sema, le corps est un tombeau. Hein. Le corps, l'âme est dans le corps, dans l'insomatose, l'incarnation, pour Platon, est une dégradation. Hein. L'âme est dans le corps comme le papillon dans sa chrysalide. Le papillon, c'est psyché, et ça veut dire l'âme aussi. Et le psyché, la chrysalide va s'ouvrir et laisser sortir le papillon à la mort. À la mort, l'âme se libère du corps comme le papillon sort de la chrysalide. Mais on en est loin aujourd'hui. On en est loin aujourd'hui. Regardez tous les slogans de la pub. Soyez vous-même, chouchoutez-vous, par exemple. Prenez soin de vous. Donc, on est passé du corps guenille ou du corps tombeau, si vous voulez.
Parce que je le vaux bien.
Ouais, parce que je le vaux bien, etc. Donc, cela flatte notre propre narcissisme. Mais c'est... On ne comprend pas comment fonctionne le désir. Le désir fonctionne sur la négativité, sur le rêve de ce qui n'est pas, sur la transcendance. Si je suis ce que je vois dans le miroir, ça sert à rien, hein, je peux pas m'adorer. Ça me fait penser, si vous voulez, à ces restaurants où parfois vous avez un panneau qui dit « Ici, on mange comme chez soi ». Mais si on mange comme chez soi au restaurant, c'est pas la peine d'aller au restaurant, vous voyez, hein. Donc, si je suis ce que je vois dans le miroir, hein, bon, je peux pas rêver de moi-même, hein. Cela flatte au plus mon narcissisme, mais on ne comprend pas comment fonctionne vraiment le désir. Alors, je reprends... l'hérétisme, la démangeaison du désir, je pense au dialogue entre Socrate et Calliclès dans le Gorgias de Platon. Socrate dit à Calliclès, comment vois-tu la vie? Alors Calliclès dit, ben, je veux avoir le maximum de désirs, hein, et satisfaire justement tous les désirs que je vais éprouver dans l'instant que je les éprouverai. Et alors Socrate lui répond, à ce conte-là, Calliclès, tu me fais penser à quelqu'un qui aurait la gale, qui trouverait beaucoup de plaisir à se gratter, et qui passerait tout son temps à se gratter. Vous voyez, on retrouve ça, on retrouve là la démangeaison, ou l'hérétisme, hein. Je pense aussi, vous voyez, Redouane, aux Danaïdes de la mythologie, qui ont été condamnés à remplir éternellement un tonneau sans fond, hein. Bon, alors, n'oubliez pas que les châtiments infernaux peuvent être vus comme de simples allégories morales. C'est ainsi que les interprètes Lucrèce, dans son De Natura Rerum, les auditeurs peuvent trouver le passage, c'est le chant 3 du livre de Lucrèce, les vers 978 à 1023. Donc, Lucrèce n'avait pas peur des châtiments infernaux au sens littéral, pas du tout, hein. Pour Lucrèce, la mort était le point final, voilà. Mais il disait que ces châtiments, comme par exemple le tonneau des Danaïdes, ou bien la soif inextinguible de Tantale, c'est-à-dire une soif qui ne peut pas être apaisée, ou bien le rocher toujours suspendu qui menaçait Sisyphe, je crois, hein. Donc il me semble à vérifier. En tout cas, Tantale, pour Tantale et pour Danaïde, c'est ce cas-là, hein. C'était des allégories justement de ce qui nous arrive quand nous sommes la proie de nos désirs, hein. Nous sommes toujours dans cette fameuse démangeaison. Alors, il y a un film qui le montre bien, hein, un film un peu maudit, qui a fait scandale, c'est L'Empire des Sens de Nagisa Oshima, hein, qui a poussé ce thème à son point extrême de logique destructrice, c'est-à-dire le désir Eros va déboucher sur Thanatos, hein, sur la mort. Hein. Le sous-titre de ce film, c'était La Corrida de l'amour, vous voyez, c'est symbolique, La Corrida de l'amour, le film de Oshima. Mais c'est très logique, c'est dans la ligne de Georges Bataille, hein, et le lien entre Eros, entre l'amour, et Thanatos, la mort, peut être établi si on se situe à ce simple niveau. Alors, l'homme du strict instinct, c'est comme un alcoolique, en quelque sorte, hein. C'est quelqu'un comme qui trouve l'ivresse, mais l'ivresse provisoire, parce qu'après, il va déchanter quand il aura, comme on dit très trivialement, la gueule de bois. Alors j'ai choisi pour illustrer, donc, comme j'avais choisi Piaf pour illustrer l'exaltation, pour illustrer la banalisation, j'ai choisi la chanson de Boris Vian, qui s'appelle « Je bois ».
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous. Pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Voilà, donc je bois, je bois.
J'ai pris cette chanson pour illustrer la banalisation. Hein. Voilà, celui qui veut s'étourdir. Alors, c'est amusant parce qu'il dit « Je bois pour oublier l'infidélité de ma femme, pour oublier les amants de ma femme, ou pour oublier ma femme. » En fait, s'il boit, il va la verra double. Il la verra double, sa femme, vous voyez. Donc, c'est pas une solution, si on boit pour oublier sa femme. Voilà, mais je crois quand même que, cette chanson, qui est humoristique, bien sûr, faut la prendre de deuxième degré, hein, de Boris Vian, elle nous montre la tentation de beaucoup d'êtres aujourd'hui, qui est l'anéantissement. L'anéantissement dans le sommeil, dans un sommeil quasi animal. Hein. Et l'homme de plaisir, par exemple, a de brefs incendies, d'accord, mais derrière, il y a une stagnation, il y a un marécage. Hein. L'homme ne vibre plus, l'homme devient une eau stagnante, il devient comme de la boue, hein. C'est de l'eau gelée, hein, ou une âme morte, hein. Les âmes mortes, pour reprendre dans un autre contexte le titre du roman de Gogol. Hein. Donc, alors, comment briser l'eau stagnante? Comment réveiller, justement, cet enlisement? Je crois que le pire, vous voyez, Redouane, c'est même le plaisir qu'on désapprouve tout en le prenant. Car on se sent tiré vers le bas et on n'en retire que de la honte. Alors voici ce qu'écrit Baudelaire dans son adresse au lecteur au début des Fleurs du Mal. Hein. Aux objets répugnants nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas, sans honneur à travers les ténèbres qui puent, vous voyez. Donc, alors, ce vers aux objets répugnants nous trouvons des appâts me fait toujours penser à ceux qui regardent la télévision, hein, et qui prennent un plaisir dégradant, et qui ne peuvent pas se détacher de la télévision. Et alors, comme je l'ai dit aussi dans un billet qui est diffusé sur FM+, c'est une espèce d'hypnose que la télévision crée. Et alors, on s'est, étonné que lors d'une émission de TF1, Star sous hypnose, un téléspectateur avait été hypnotisé, hein, au point qu'on a fait venir le SAMU pour le sortir de son hypnose. Mais je dis dans mon billet, les auditeurs l'entendront, qu'il n'y a pas lieu de s'étonner, puisqu'on est constamment, surtout si on fait partie de ces 3 millions de téléspectateurs qui ont regardé Star sous hypnose sur TF1, on est toujours comme hypnotisé, hein, la bave aux lèvres, je dis, hein, en regardant la télévision. Donc nous rendons compte que nous regardons des choses débiles, comme on dit familièrement, nulles ou faibles, etc., mais nous sommes scotchés, collés à la télévision. Nous sommes comme sidérés. Hein. Alors, c'est ça, le pire, on se dégrade, on se rend compte qu'on se dégrade, mais on ne peut pas s'arracher à cette dégradation. Hein. Et là, la banalisation est à son comble. Alors, pour reprendre la mythologie grecque, hein, l'exemple de la mythologie grecque, on nous dit que Héraclès, ou Hercule, avait nettoyé les écurie d'Augias, hein. Et ça, je trouve là une image archétypale. Il faut ressusciter l'âme, c'est-à-dire l'éveiller à nouveau, hein. se sauver de la banalisation. Alors bien sûr, on ne peut vibrer, rester tout le temps dans l'exaltation, mais faute de n'avoir le tout de rien, est-ce que nous sommes condamnés à n'avoir rien du tout ? Il faut donc se réveiller. Et d'ailleurs, dans la couverture de mon livre dont nous parlons, « L'âme et André et de l'amour », Eros et Agapé, chez Dervy, vous avez donc une image qui représente Psyché, l'âme qui est réveillée par le baiser d'Eros, hein, par le baiser de l'amour. Hein. C'est à partir d'un groupe sculpté de Canova, vous voyez. Donc l'âme, elle est, comme on dit, une belle au bois dormant. Alors faites attention, il y a une anastrophe, une inversion. Hein. C'est la belle qui dort au bois, parce que le bois dormant ne veut rien dire. Hein. Donc la belle dormant au bois. Hein. Donc la belle au bois dormant, elle doit être réveillée par le baiser du prince charmant. De même, notre âme doit être réveillée par le baiser de Eros ou Cupidon, c'est-à-dire du désir. Hein. Et donc, je crois qu'on peut rester sur cette image. Alors, j'ai choisi la belle chanson de Ferré pour terminer l'émission, qui s'appelle « Avec le temps ». Mais il faut savoir que c'est pas parce que cette chanson est belle que le tragique qu'elle nous expose n'est pas conjurable.
Merci Michel, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer, peut-être petit à petit, clore d'ici fin juin, les méandres de l'amour auxquels on vous renvoie. Méandres de l'amour, Eros et Agapé, aux éditions Dervy. Merci.
Au revoir à tous.
Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. On devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Sa taille de ses gueules à la galerie, je parfois dans les rayons de la mort le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre en qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on y vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disait tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends